Donc, c'est avec grand plaisir que moi aussi, je vais vous parler du référentiel ou d'approche par compétences pour des enseignants-chercheurs. Et c'était là le lien, en discutant avec Philippe ce matin, qu'on a choisi de faire nos salles infins et de changer l'ordre de la présentation. Parce que c'était l'idée qu'il a pu mettre la table et que je vais vous l'exemplifier d'une manière que nous, on a choisi d'emprunter à l'Université de Sherbrooke, donc en répondant à la commande qui m'a été proposée autour de l'approche par compétences, c'est le cas dans nos programmes. Alors, ce que je vous propose en matière de plan de l'échange, c'est de voir l'équilibre dont Philippe vous a parlé, hein, cet équilibre entre l'enseignant et le chercheur en nous, partir de la pratique, s'en aller à la formalisation des compétences, puis à l'expérimentation et en révolution permanente. Alors, vous voyez que j'ai un plan qui n'est pas trop compliqué. En même temps, parfois, c'est dans la simplicité qu'on fait le mieux. Vous n'hésitez pas s'il y a des choses que je vous dis qui ne sont pas claires ou si mon accent vous empêche de comprendre certains vocabulaires que parfois j'utilise. Je me contrôle bien, mais par ma main, mon naturel revient au galop et il y a des termes de Sri Sulsande qui viennent de manière systématique, bien que je sache que c'est sur le gâteau. C'est ça, hein? C'est sur le gâteau. Ouais, voilà, mais dans ma tête, non. C'est sur le Sunday. J'ai vraiment du mal à m'y faire. Alors, Philippe vous a parlé tout à l'heure de l'équilibre et il y a une question qui a été posée par le collègue sur cet équilibre difficile qu'on a comme enseignant-chercheur à l'heure actuelle dans nos espaces. Et moi, je parle de l'équilibre entre l'homo academicus au sens de Bourdieu, donc cette personne qui vit dans ce lieu de recherche, et je ne reviendrai pas sur la complexité de la tâche dont Philippe vous a fait part autour de « parfois je passe plus de temps à chercher de l'argent qu'à faire mon projet de recherche pour lequel j'ai eu de l'argent ». Et d'autre part, mon homo pédagogicus, que mon collègue Denis Bédard a nommé comme tel, qui est l'idée de se développer professionnellement comme enseignant. C'est un véritable défi pour nous que de trouver cet équilibre entre les sphères administratives, recherche, pédagogie, et je ne vous parle même pas des questions d'encadrement au cycle supérieur, qui me semblent encore faire partie d'une voie à part. Et vous voyez, Philippe et moi avons eu la même idée, hein, finalement... du bon prof, c'est un élève qui a trouvé une job. Je suis sûre que c'est lui qui me l'a volé. Je tiens à vous le dire. Je suis convaincue. Mais c'est vraiment ça. Cet équilibre, il a été parfois plus facile à trouver. Et vous parliez de recruter des nouveaux collègues. Plusieurs disent aujourd'hui, si on devait être engagé aujourd'hui avec les critères qu'on a pour nos nouveaux collègues, on ne serait jamais engagé dans nos établissements. Donc c'est tout de même un vrai enjeu que cet espace qui nous demande d'être toujours sur un fil, et c'est pas pour rien qu'on va voir apparaître chez les enseignants-chercheurs de plus en plus d'épuisement professionnel aussi, ou de fatigue, ou de collègues qui disent « Ok, moi je mets tout sur la recherche et rien sur l'enseignement » ou l'inverse, parce que ça devient très difficile à gérer. Et c'est à partir de cet équilibre-là que je vous propose de regarder l'échange et les éléments de communication que je vous propose, parce que pour nous, ça a été hyper important de tenter de maintenir cet équilibre. Alors, on a une grande chance dans le programme dont je vais vous parler, c'est que c'est un programme en pédagogie de l'enseignement supérieur et qu'on fait notre recherche en pédagogie de l'enseignement supérieur. Donc, on a trouvé cet équilibre aussi parce qu'on a un continuum entre nos activités de recherche et d'enseignement, et c'est une vraie chance qu'on a à l'heure actuelle, on peut le reconnaître. Alors, pour placer mon propos, je veux vous dire que d'abord, on ne part jamais de nulle part. Forcément, il y a quelque chose qui existe avant. Quand on commence à réviser nos programmes, à penser approche par compétence, à vouloir s'enligner vers de la transformation pédagogique, on part de quelque part. Philippe, tout à l'heure, vous a montré une grotte et la caverne. Nous, on était déjà un petit peu plus loin quand même que la caverne et on est parti d'un cours au départ de ce qui est devenu aujourd'hui un programme. Le cours s'appelait « Enseigner en contexte universitaire ». C'était un cours qui était siglé à destination des doctorants qui souhaitaient devenir a priori enseignants-chercheurs, et donc on leur disait ce serait bien quand même de faire un petit cours autour de la pédagogie, histoire de savoir ce que c'est, essayer de décrocher un petit contrat de vacataire ou d'attaire pour avoir quelques heures de pratique, pour avoir une chance d'être engagé dans une université par la suite ou dans une école d'enseignement supérieur. Et c'était un cours qu'on siglait 45 heures présence étudiante. On était bien dans un format présentiel. Un prof, des étudiants. Alors, c'était aussi à une belle époque de la fin des années 90, où on avait pas mal d'argent. Donc, on n'avait pas trop d'étudiants. En plus, c'était des doctorants, on les chouchoutait, c'était très bien. C'était un cours qui était ouvert aux doctorants de toutes les facultés. Donc, que tu sois en médecine et sciences de la santé, que tu sois en génie, que tu sois en biologie, que tu sois en philosophie, en études religieuses, en éducation physique et sportive, tu étais le bienvenu. Alors, ce cours, il était pensé, évidemment, dans une logique enseignement, mais aussi dans une logique activité. On était bien déjà dans une posture où le but était de mettre les doctorants au travail, et non pas uniquement dans un espace dispensatoire de savoir ou magistral. C'était l'une des spécificités de ce cours. Alors, ce cours, il avait comme objectif officiel, donc inscrit à ce qu'on appelle l'annuaire de l'université, c'est-à-dire public, acquérir les connaissances et les habiletés de base pour enseigner en contexte universitaire. Autant vous dire que c'est un peu dol quand tu le lis de même, là, c'est pas full glamour. Et c'était défini en disant, les compétences à développer sont, ce cours a pour visée principale d'amener les étudiantes et les étudiants à se préparer à enseigner en contexte universitaire. Pas trop compliqué au vu du titre, ils se sont pas cassés ben quand ils ont fait la description. Mais alors après, ils les ont listés en éléments de compétences. Alors vous voyez, prendre en compte caractéristiques cognitives, les moments de l'enseignement, c'est-à-dire planification, intervention, évaluation, les activités, les composantes, les facettes de la fonction. Or, en réalité, nous n'abordions jamais les éléments liés à l'administratif et à la recherche, mais c'est pas grave, c'était écrit. L'important, c'est ce qui est écrit à l'annuaire. Hein. Identifier les forces et les faiblesses des étudiants au plan de l'apprentissage et retour à se préparer à enseigner en contexte universitaire. On insistait beaucoup, au cas où tu n'as pas compris que c'est pour enseigner en contexte universitaire. Quand tu lis, tu le saisis. Et ça, c'était notre base de travail, messieurs, dames. Alors, autant vous dire que la première fois que j'ai enseigné, je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais faire, mais heureusement que mon collègue Denis Bédard, qui l'enseignait en réalité avec Roland Viau depuis plusieurs années, avait fait un réel travail pour nous aider là-dedans. Alors, ça, c'était notre base de travail et on voulait, vous vous en doutez, légèrement faire bouger ça. Alors, pour faire bouger ça, on s'est dit comment est-ce qu'on va transformer ce cours en un micro-programme. Je vais vous dire pourquoi micro. Penser dans une approche par compétence. Pour nous, c'était vraiment l'idée de la transformation, et vous reconnaîtrez le Transformers, qui a été à l'image de notre mode de pensée, vraiment en mode, OK, il faut qu'on se déploie, puis il faut qu'on marque les esprits. C'était important, dans cet espace de compétitivité des formations, de démontrer toute la pertinence de notre programme. Alors là, on s'est dit, bon, ce qu'on veut, premièrement, c'est formaliser des compétences. Alors, qu'est-ce que ça veut dire formaliser des compétences? Et je vous offre un peu une bulle théorique par laquelle on est passé, tout de même pour comprendre la posture dans laquelle on est allé. Parce qu'une fois qu'on se met en place des changements de pratique, il ne s'agit pas juste de le faire parce qu'on nous a dit « Ah, Philippe Lalle a dit que c'était bien de faire du travail collaboratif. Ah, Marcel Lebrun a dit que c'est super bien de faire de la classe inversée. » Mais on veut surtout le faire parce qu'on a compris quels sont les cadres qui, en arrière, sous-tendent nos transformations. Et je dirais que c'est parfois une faiblesse de nos établissements d'entrer tout de suite dans la transformation, mais de peu la penser en se disant sur quoi on s'assoit pour que ça fasse sens, pour que ça soit cohérent, et qu'est-ce qu'il existe ailleurs. Tout à l'heure, Philippe a dit, on a un peu regardé ce qui existe ailleurs. Ben oui, il y a des choses qui se font, et parfois, quand on peut éviter de répéter les erreurs de certains, c'est un moyen d'avancer. Et d'autre part, si on veut dire « je fais de l'approche par compétence », il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire des compétences. Vous savez, c'est comme les gens qui disent « je fais de l'approche par problème » ou du PBL, mais pas comme dans la méthode originelle, mais pas comme à tel endroit. Finalement, tu ne fais pas du PBL. Tu fais quelque chose, mais ce n'est pas ça. Tu ne peux pas porter un tag de quelque chose qui n'est pas ce que tu fais en vrai. Il y a des postulats qui sous-tendent ces approches-là, et c'est vers ça que je veux vous guider aujourd'hui, sans en faire un cours théorique, mais pour vous montrer quelles sont les assises qu'on a empruntées. Alors, juste pour comprendre quand même que c'est quelque chose qui est dans l'air depuis longtemps en termes de pensée. Dans les années entre 70 et 90, on parlait beaucoup des objectifs d'apprentissage. J'ai vu les yeux de Anne quand Philippe a dit. Alors, les objectifs d'apprentissage, elle m'a regardée genre... Non, mais c'est vrai, dans les années 70 à 90, on parlait beaucoup de ça en matière d'outils de planification pour créer des programmes. Ça a été mentionné, on en voit encore des traces aujourd'hui. Très clairement, vous constaterez que l'objectif de notre annuaire, c'est exactement ça. Acquérir des connaissances, c'est un objectif d'apprentissage. Si on devait le qualifier dans les niveaux de Bloom, il serait par contre un niveau de bas niveau. Or, c'est une formation de troisième cycle. On avait une légère incohérence là-dedans. Autre élément, c'est que ce qu'on constate qui a amené un changement dans les pratiques, c'est que même les étudiants qui ont compris, donc ils ont réussi, ils ont atteint cette réussite de cours dont parlait Philippe, ben on constate que quand ils arrivent sur le milieu du travail, ils ont beaucoup de mal à mobiliser leurs connaissances. Ils ont réussi en contexte académique, mais tout d'un coup, en contexte professionnel, ils sont comme un peu flottants. Et on avait des retours, notamment dans certaines formations, d'employeurs qui disaient « Mais attendez, ils ont été diplômés, mais quand ils arrivent sur le terrain, tout est à recommencer. » Alors, ça a permis les grandes vagues de discussions autour de « Ce que tu apprends à l'université, ça ne sert à rien, c'est ici qu'on va tout apprendre. » Avec un décalage de plus en plus important entre nos espaces universitaires et les milieux professionnels. Et comme l'a dit Philippe, milieux qu'on ne connaît pas nécessairement. En effet, hein, souvent en plaisantant, je dis, si mes collègues de communication leur avaient dit qu'un jour, ils allaient former des étudiants qui, toute la journée, allaient être sur Twitter, Instagram et Facebook, ils m'auraient dit, bah là, tu ris ou quoi ? On les forme pour la communication. Mais aujourd'hui, connaissez-vous une grande entreprise qui n'a pas ses réseaux sociaux et quelqu'un qui les gère ? En fait, c'est tout à fait vrai. On ne sait pas à quoi nos étudiants vont aller, dans quoi ils vont aller travailler, comment ils vont mobiliser connaissances et compétences. Mais l'important, c'est que s'ils ne savent pas les utiliser en situation réelle, ça veut dire que comme espace universitaire, on est tout de même passé à côté de quelque chose. Alors, ce qu'on a vu apparaître dans les années 90, c'est justement ces compétences qui étaient davantage en lien avec la réalité professionnelle, avec tout ce qu'elle a de complexe, mais la réalité professionnelle, c'est ça. J'avais une belle image de pots de peinture qui sont tout bien alignés avec un pinceau puis qui disent « voilà l'école » et puis en dessous vous avez une espèce d'affiche où tous les pots sont renversés, les couleurs mélangées et c'est écrit « voilà la vie ». Et c'est vrai, c'est ça. Nous, on a tendance à cette belle structure bien en silo qui dit un cours, une note, des objectifs d'apprentissage, c'est bien beau. Mais dans la vraie vie, ça ressemble pas à ça. Faites-vous ça dans votre job où tout est découpé. Pensez d'ailleurs aux gens qui font des mi-temps et puis qui disent, ouais, mais c'est compliqué parce qu'attends, je reçois des courriels de mon autre mi-temps quand je suis à mon deuxième mi-temps. Philippe en est un excellent exemple. Il a deux jobs, il vous l'a dit, mais tous ses courriels arrivent en vrai sur la même adresse, les choses sont déviées. Et quand il est à Lyon, il répond à ses courriels du ministère, et au ministère, il voit ses courriels de Lyon. La vie, c'est pas découpé dans des pots de peinture. C'est un mélange, c'est un tableau impressionniste. Alors, nous, ce qu'on a mis de l'avant, qu'on a choisi comme définition de compétence, parce que vous savez ce qui est difficile au concept de compétence, c'est que tout le monde a un peu inventé le sien. Le concept où tu peux dire « j'ai rajouté un déterminant », c'est maintenant ma définition. Alors nous, on s'est dit « bon, on a quand même un collègue illustre en notion de compétence, Jacques Tardif, qui est un incontournable de cette thématique. Ça nous semblait tout à fait logique d'aller avec ses travaux. Alors la définition qu'on a gardée aujourd'hui, bien qu'on ait commencé notre réflexion au moment où elle est sortie, mais on avait la chance de la voir à l'interne, donc de bénéficier déjà d'un certain nombre de ses savoirs, c'était de dire « la compétence est un savoir agir complexe, prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations. » Alors, quand j'ai travaillé avec Philippe sur la question du référentiel, puisque j'ai eu la chance d'aller en discuter avec eux, j'ai compris quelque chose. Un frein, il est très important de dire « les compétences ne s'opposent pas aux connaissances ». Le jour où Philippe m'a dit ça, c'était un peu une révolution. Pour moi, c'était une évidence. Mais il m'a dit « non, mais ce n'est pas du tout évident chez nous ». Donc, les compétences s'appuient forcément sur des connaissances. Tu ne peux pas imaginer être compétent si tu n'as pas les connaissances. Imaginez que vous me disiez « bon, ben, en termes de savoir agir, j'aimerais ça que tu sortes dans la neige, siphonner une Mercedes qu'il y a dehors ». Mais si je ne connais pas la procédure, comment ouvrir le bouchon, comment aller chercher, je ne pourrai jamais être compétente. Donc, pour y arriver, pour démontrer mon savoir-faire, je siphonne une Mercedes, il faut que j'ai les connaissances minimales du système pour pouvoir le faire. Vous comprendrez que c'est une compétence exemple. Hein, je ne siphonne pas les Mercedes sorties des universités. Chacun ses tripes, mais celui-là, non. Mais il est facile à comprendre. Quel que soit votre domaine de formation, tout le monde a une image. Donc, une fois qu'on s'est dit, ben, nous, c'est ça qu'on veut développer chez nos étudiants. Évidemment, nos étudiants, je vous le rappelle, sont des doctorants à l'époque du cours. Mais là, on est dans notre mode de pensée transformé en un programme. Et tant qu'à transformer, on va pousser un peu plus loin pour en arriver à la formation des enseignants et des enseignants-chercheurs. Donc là, on est vraiment entré dans une logique où on voulait des professionnels en exercice. Alors, pour nous, il y avait une chose importante dans la distinction que je veux faire entre savoir agir, hein, puisque vous l'avez vu dans la définition, je vous la rappelle, un savoir agir complexe, et un savoir-faire. Pourquoi ? Parce que les gens résument souvent la compétence à dire « Ah ben la compétence, c'est les savoir-faire finalement ». Mais non, la compétence, ce n'est pas juste, entre guillemets, un savoir-faire. Et je ne vous parle même pas des questions éthiques qui ont été abordées par Philippe et qui sont essentielles, puisque toute personne compétente, et c'est d'ailleurs ce que le BOTERF ajoute aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui agit avec éthique et professionnalisme par rapport au savoir-agir. Alors, il y a une chose importante, c'est que le savoir-agir, il va combiner en fait différents savoir-faire et savoir-être. C'est hyper important la question de ces comportements personnels parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises ne sont pas mécontents de la formation qu'on offre aux étudiants, mais ils reviennent souvent sur l'idée que leur savoir-être sont relativement peu développés. On a vu des formations qui ont insisté aujourd'hui lourdement, et on pense à toutes les formations en sciences de la santé, sur l'importance du savoir-être. Être une bonne infirmière, c'est pas juste la fille qui pique. Être une bonne accoucheuse, c'est pas juste la fille qui va aller mettre ses mains. C'est la fille qui va te rassurer, qui va te parler, qui au moment où ça va pas aller bien, va te dire « Oui, mais t'es capable, regarde, prends une belle position. » C'est quelqu'un qui va beaucoup travailler au niveau de ses compétences relationnelles. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça à mobiliser dans un espace de formation. Et en plus, un savoir-agir, c'est ce qu'on va appeler un acte ou un geste professionnel auquel on veut préparer les étudiants. Et là, on a une réelle complexité qui s'offre à nous, parce qu'on ne pourra jamais préparer nos étudiants à l'ensemble des gestes professionnels qu'ils pourront faire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a déjà pas une exhaustivité des métiers, et parce que ça serait complètement impossible. Et ça, eh bien moi je trouve ça rassurant, parce que ça me permet de dire, visons la qualité des démarches, plutôt que la quantité des contenus. De toute manière, je n'arriverai jamais à leur faire travailler, appréhender, maîtriser l'ensemble des actes et des connaissances. Alors finalement, ces histoires de contenu, c'est toujours bien des choix qu'on fait entre nous. C'est des choix que nous, on dit « Ah oui, il faut absolument travailler ça et ça et ça et ça ». Mais le savoir avance tous les jours. Tous les jours, la connaissance évolue. Ceux parmi vous qui êtes enseignants-chercheurs, vous savez bien que tous les jours, elle est en chemin. Alors quand bien même on allongerait indéfiniment les temps d'études, jamais on ne pourra le couvrir complètement. Alors relaxons-nous par rapport à cette idée de quantité. Soyons plutôt dans un espace de qualité, de compréhension, de développement de compétences, parce qu'en plus, nos espaces de formation aujourd'hui, c'est un temps dans la vie d'un étudiant. Mais quand il va sortir, on espère bien qu'il va continuer à apprendre et à se développer, parce qu'il va avoir une carrière de plus en plus longue. Si pendant 45 ans, il dit « Ah non, mais moi c'est bon, hein, je me suis formé, c'est réglé », j'espère qu'il n'a pas fait chirurgie, et puis après ça, qu'il va vous opérer. Un jour, vous savez, l'ancien doyen de la faculté de Lyon-Est en médecine, il m'a dit « Tu sais, Christelle, si j'enseignais la médecine comme on me l'a apprise, j'irais en prison pour ça. » Et j'ai trouvé l'action hyper intéressante, parce qu'il me disait « Mais tous les jours, la médecine évolue. Il y a des techniques qu'on mettait en place, et si on se parle du travail des sages-femmes et de l'accouchement, il y a des choses qu'on faisait auparavant qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dirait « Mais c'est un acte criminel d'aller vers ça. » Donc on voit bien qu'on est dans cette évolution. Eh bien, nous aussi, comme enseignants, on doit être dans cet espace d'évolution et accepter qu'on ait un temps dans la vie d'un étudiant qui reviendra en formation qui continue, mais qui va aussi aller chercher ailleurs un certain nombre d'informations. Tout à l'heure, la maîtresse ou le petit élève lui disait « Maîtresse, c'est pas ça qu'ils disent sur Wikipédia ». Mais il y a des choses super bien faites sur Wikipédia. Nous, on a des collègues dans des domaines pointus en sciences qui font la page Wikipédia. Ils me disent « De toute façon, les étudiants vont la consulter, alors autant qu'elle soit bien faite ». Ça, c'est leur première raison. Et je vous assure qu'elle est effectivement très consultée, cette page. Je pense qu'aussi, ça lui fait du bien. Tu vois, il dit « Les étudiants lisent ce que j'écris ». Parce que c'est vrai, avouez que vos articles scientifiques, quand même, à part ta mère, tes doctorants que t'obligent à lire et trois collègues qui lisent l'intro, les résultats, la méthode et la conclusion, c'est un peu décevant quand même. Si on avait autant d'impact avec nos résultats, on n'est pas tous des prix Nobel cités 9200 fois sur Google quand même, il faut être franc. Tandis que nos étudiants, quand ils lisent notre page Wikipédia, ben là, ça te fait du bien, tu vois. Le collègue, mais alors ils me disent ce qui m'intéresse, c'est pas qu'ils aillent sur Wikipédia, c'est qu'ils vérifient la véracité des propos. c'est-à-dire développer cet esprit critique. Ne prenez pas ce qu'on vous dit pour argent comptant. Et ça, c'est vraiment un élément de compétence. Alors, autre élément que nous, on souhaitait voir, c'était que ça se distinguait aussi parce qu'il y avait un caractère heuristique, parce qu'on ne peut pas l'automatiser. Le savoir agir, c'est quelque chose qui va être toujours dépendant du contexte. Et vous savez, il y a un chercheur du nom de Perry qui dit, ben en fait, les étudiants, on va les amener à avoir ce qu'on va appeler une posture épistémologique de plus en plus relativiste. C'est-à-dire se dire que dans un contexte X, il y a une réponse qui va être meilleure qu'une autre. Mais la réponse, elle n'est pas toujours bonne. Ce n'est pas parce que le prof a dit « oui, ça c'est bien » que c'est bien. Les diagnostics, on le voit bien, sont des choses qui évoluent. La médication, il n'y a pas si longtemps, on enseignait encore que Pluton était une planète. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Donc, on voit bien qu'on est dans cet espace de développement. Soyons plutôt dans une posture de compréhension de contexte pour savoir comment agir intelligemment dans le dit contexte. Et puis, la personne compétente, c'est aussi quelqu'un qui va vivre dans un événement où il y a un espace où il y a des événements concomitants qui arrivent. Pensez quand vous conduisez une voiture. C'est drôle parce que c'est un exemple qu'on a beaucoup discuté avec des collègues. Est-ce que conduire une voiture, c'est une compétence? Est-ce que c'est un savoir agir complexe qui fait appel à une diversité de choses? C'est une vraie discussion. À partir du moment où vous êtes au Québec à moins 40 avec du verglas, ça devient probablement une compétence. C'est sûr que quand tu conduis à Marseille, au bord de la mer, quoique il a neigé cette semaine à Marseille, il y a un collègue qui m'a dit, tu vas voir, ça c'est l'événement de l'année, on va en parler toute l'année. Mais depuis, Johnny est mort, donc je pense que la neige, vous venez de vous la faire passer. Mais c'est une vraie compétence parce que, vous ne saviez pas que Johnny était mort? Mais oui, c'est quand même l'événement, il est mort à 2h45 ce matin. Ah ben là... Heureusement, voyez, le Québec vous informe. Johnny Hallyday est mort. Il faut quand même habiter à 6000 km pour mieux savoir que vous. Mais voilà, je vous informe. On pourra s'en parler à la pause parce que je comprends le trauma que ça peut causer. Oui, mais tu sais, ça, c'est comme Farrah Fawcett qui est mort la veille de Michael Jackson. Tout le monde s'en fout. Et malheureusement... les événements prennent le dessus parfois. Alors, une fois qu'on a défini ces éléments, eh bien, ce que dit Tardif, et c'est vraiment à titre informatif, je ne vais pas vous en faire la lecture, mais lui dit, il y a des caractéristiques d'une compétence conçue comme un savoir agir complexe. Et nous, ce qui nous a semblé intéressant, c'est de dire, quand on va construire nos compétences, il faut qu'on ait ces différentes caractéristiques en tête. L'idée du caractère intégrateur, combinatoire, développemental, contextuel, évolutif. Donc, on a construit nos compétences en ayant en tête ces caractéristiques. C'était un moyen, si vous voulez, à chaque fois qu'on produisait quelque chose, de retourner puis de se dire « Ok, on est bien tous d'accord, ça ressemble à ça ». Et on a fait des allers-retours en matière de construction. Pour moi, c'est un mot important, et quand Philippe vous dit « on a travaillé à ce référentiel longtemps », c'est bien la preuve qu'une compétence, c'est quelque chose qui va le faire dans le temps. On va développer, elle n'est pas bonne dans notre première formulation au premier tour, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de commencer et d'avoir des balises théoriques qui nous permettent de dire pourquoi on a choisi ou pas que c'était une compétence. Tout à l'heure, Philippe vous a dit « maîtriser des savoirs, c'est probablement pas une compétence ». Il a raison, mais il en a conscience. L'important, c'est ça. C'est de se dire que parfois, on fait des compromis dans nos établissements, mais d'avoir conscience, de ne pas dire « ben oui, oui, c'est une compétence ». Ben non, tu sais bien, quand tu l'énonces, c'en est pas une. Tu fais des choix qui peuvent être discutables, avec lesquels on peut être en désaccord, mais il y a parfois le contexte dont il faut tenir compte. Alors, une fois qu'on s'est dit « ok, on a les caractéristiques bien au clair, on sait ce qu'on veut mettre en arrière », eh bien, on s'est dit « il faut penser l'approche par compétence, non pas comme une finalité, mais comme un outil. » Pour moi, c'est hyper important. L'approche par compétence, ce n'est pas un objectif institutionnel, c'est un outil pour atteindre ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est un apprentissage durable chez les étudiants. Si vous perdez de vue cette finalité-là de formation, ça ne sert à rien. Tout à l'heure, j'ai croisé une collègue que je ne vois plus, mais qui est à l'ENTPE et qui travaille en approche par compétences et ils vont jusqu'à l'approche programme, choix que nous avons fait aussi, ou en tout cas, ils sont en chemin pour le tester. C'est ça aussi un outil. on n'est pas dans une logique de finalité. Atteindre l'approche par compétence ou l'approche programme, c'est pas « yeah, j'ai atteint mon but ». C'est « voilà ce qui nous semble le plus pertinent à l'heure actuelle pour atteindre notre but, qui est l'apprentissage des étudiants ». On ne doit jamais perdre de vue pourquoi on met en place une approche par compétence, pourquoi on met en place un référentiel de compétences chez les enseignants-chercheurs. Parce que, et ça a été mentionné, je l'ai entendu dans les discussions à la pause de collègues qui discutaient avec Philippe, quand tu n'as pas été formé, tu arrives là et on te dit « voilà, c'est ça que tu vas donner ». En plus, souvent, tu as fait ta thèse sur quelque chose qui est gros comme un petit doigt, hein, dont tu es bien fier parce que ça fait 3, 4, et parfois au Québec, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans que tu travailles dessus, les collègues qui font ça à temps partiel. Et puis on te dit « c'est génial, d'abord, on s'en fout un peu, puis tu vas enseigner ça ». Et toi, tu dis « mais ma thèse, si tu en parles pendant 2 minutes, tu peux être chanceux ». C'est un peu frustrant quand même. Comment tu te prépares à ça quand t'arrives, toi, qui t'es plein de ton savoir, de ta thèse, qui n'intéresse personne ou presque? Là aussi, à part ta maman et tes membres de ton jury, et encore, dépendamment de ton jury, on va se le dire franchement, pas tous, il n'y a pas grand monde qui lise une thèse au complet. Non, mais soyez francs. Franchement, vous avez tous vécu des jurys où tu te dis « mais le gars, il a tout lu ou bien il a fait une page sur deux ?» Quand t'écoutes les questions, il y a des moments où tu te le demandes. Mais en vrai, personne ne lit une thèse au complet. Vous-même non plus. Combien d'entre vous lisent vraiment un article de recherche au complet, à part quand tu dois l'évaluer, et encore, quand on a vu les résultats des reviewers. Et moi, je peux vous le dire parce que je dirige une revue, et parfois, il y a des moments où je me dis, le reviewer, où il a fumé, où il a lu lui aussi une ligne sur deux. Donc, c'est pas si fréquent que ça. Donc, c'est sûr que c'est pas évident pour quelqu'un qui arrive à qui on demande d'enseigner. Autre chose, c'est que ça va l'amener à penser un changement. Un changement qui doit être pensé au niveau institutionnel. Si je m'en vais dans une approche par compétence, ça veut dire des changements aussi au niveau de l'administration. Ce n'est pas formulé de la même manière. Ça veut dire des changements potentiellement au niveau de l'évaluation, la manière dont ça va être présenté. Qu'est-ce que je fais avec le fameux « un cours, une note » et on en a discuté hier au groupe des écoles centrales autour de cette question-là. Des changements structurels profonds. Une heure de cours, une heure TD, une heure CM, une heure à distance. Quand on approche par compétence, cette logique-là, elle est un peu cassée, elle fait peut-être moins de sens. Et puis un changement personnel. Parce que c'est plus toi qui est important. C'est pas toi qui es là sur ta belle estrade. C'est eux qui sont en face. C'est pour eux que tu as pensé la formation. Tu n'as plus formulé des objectifs d'enseignement, mais tu as pensé en compétences pour les étudiants en matière d'apprentissage. Et ça, c'est un vrai switch cognitif, quoi qu'on en pense. Même si on en est convaincu, c'est parfois difficile de se décaler de nos anciens amours et de se dire « non, mais attends, c'est eux. Oui, mais cette activité-là, je l'aime bien. Oui, mais elle ne contribue pas. » Et parfois, c'est un deuil qu'on doit faire aussi dans ce chemin-là. Autre élément, c'est qu'il est très important, à mon sens, de définir une vision commune. Vous savez, on dit tous, on va faire de l'approche par compétence, on va faire de l'approche par programme. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous comme collectivité? C'est pas parce qu'on emploie le même mot qu'on dit la même chose. Et c'est un des éléments dangereux du vocable de l'approche par compétence, c'est que c'est un concept qui vient du monde de l'industrie, donc qui sonne pour certains très clair, et pas du tout clair pour d'autres. Vous savez, c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis en cours en administration où il y a un concept d'innovation. Et moi, je ne partage pas du tout la définition donnée par la chargée d'enseignement. Et je me dis, oui, mais voilà, c'est pas la même... on ne vit pas dans le même monde, on n'a pas la même approche. Mais une fois qu'on comprend qu'on n'a pas la même, parce que quand on s'écoute l'une et l'autre, on emploie le même mot, mais on ne dit pas la même chose. Et si vous n'avez pas collectivement une vision commune, vous n'y arriverez pas. Forcément, vous allez être en décalage permanent. Vous allez vivre de compromis en compromis. Et ça, c'est le premier danger d'une innovation, quel que soit le format qu'on emprunte, c'est les compromis infinis. Les compromis tuent l'idée du collectif et de l'innovation. Parce que les petits compromis, c'est des choses qu'on commence à dire, « Oh bon, ok, bon, toi tu préfères ça, alors on va faire un peu de ça, on va faire un peu de ça, on va faire un peu de ça. » Et finalement, ça ne ressemble plus à personne. On n'en est plus responsable puisque... c'est un mix de compromis qui ne fait de sens pour aucun d'entre nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Ça veut dire qu'il faut le penser avant de les faire. Se poser les vraies questions. Et puis arrêter de se mettre des limites. Moi, je vous avoue, quand on est allé dans cette approche par compétence, moi, ma posture, c'était « sky's the limit ». On verra bien après qu'est-ce qu'on va être obligé de faire. Mais pour commencer, on ne va pas s'en mettre. On en aura largement qui vont nous venir au fur et à mesure. On va penser dans notre tête, on va s'ouvrir des portes. Alors cette vision commune, pour moi, ce sont les effets attendus au terme du parcours de formation. Qu'est-ce que je veux que ça ait produit? C'est quoi la production des étudiants? Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils emmènent chez eux? Et je vous rappelle que mes étudiants, c'est des profs dans la vraie vie. S'ils viennent en formation, c'est pas pour m'écouter discourir pendant 45 heures. C'est pas intéressant. C'est pour voir d'où ils partent, pour transformer ce qu'ils font, pour leur amener des éléments de littérature, pour asseoir des changements, pour réfléchir. Mais qu'est-ce que j'ai envie pour mes étudiants ? Autre élément, et il me semble quand même important, ne soyons pas non plus... au Québec, on dirait neuneux. Ça marche et tout ? Super. Comment je... Ah oui ! Oui, je... non mais c'est politically correct. Hein. Je fais des efforts, j'apprends. Pas toujours, des fois ça dérape quand même. Comment est-ce qu'on veut positionner notre formation ? Soyons réalistes, dans un monde en compétitivité permanente, dans des espaces de formation, qui est-on ? Qu'est-ce qu'on offre ? Qu'est-ce qu'on propose ? Alors que c'est sûr que quand on se situe dans une université avec des programmes plus classiques, en licence, en master, on doit déjà se diversifier, mais c'est plus facile. Mais nous, en formation continue, ça devient un vrai enjeu. Pourquoi les gens viendraient à Sherbrooke plutôt qu'aller à Laval, à l'Université du Québec à Montréal, à l'Université de Montréal, à l'Université du Québec à Trois-Rivières? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont choisir notre établissement? C'est quand même un vrai enjeu au moment où on se parle de l'importance du recrutement, et particulièrement quand on parle du recrutement à l'international, c'est un véritable enjeu. Qui on est, comment on se positionne et qu'est-ce qui nous différencie des autres? L'idée, c'est pas de copier ce qui se fait, c'est de se dire qu'est-ce que nous on offre et pourquoi c'est différent d'ailleurs. Ça, c'est un vrai enjeu. Et ça me semble vraiment un enjeu important au moment où on se parle des appels à manifestation, par exemple. Qu'est-ce qui fait que le projet qu'on propose, il nous différencie de ce qui se fait ailleurs ? Pas une pâle copie de reproduite de ce qu'on a vu dans un autre pays, mais vraiment quelque chose qui correspond à notre contexte à intenter. Et puis, c'est quoi le profil de sortie ? Philippe en a parlé, hein, l'idée de quelles sont les connaissances, quelles sont les compétences, quelles valeurs et attitudes on veut amener chez les gens. Et je vais vous expliquer que chez nous, on a fait des choix à ce niveau-là qui a amené des choix de compétences plus ou moins que d'autres. Alors, pour moi, il y a une chose importante, c'est que l'idée, c'était aussi de créer du collectif et du lien entre les cours. Pour ne pas penser la formation comme un saucisson en tranches, mais d'avoir le saucisson complet. Dire à l'étudiant, c'est ça que je te propose. Après ça, évidemment, on va y avoir de l'organisation. Mais pas que t'aies l'impression que finalement les tranches, elles font même pas partie du même saucisson. Pour moi, c'est important d'avoir cette vision globale de ce qui est présenté. C'est ça la démarche. Ce que je te propose, c'est un parcours de formation. Ce ne sont pas des tranches de saucisson. C'est un parcours construit, pensé en commun, avec des valeurs communes. Ça veut dire prendre le temps d'en discuter. Je ne vous dis pas que ça se fait facilement et que du jour au lendemain, tu claques des doigts et c'est réglé. Ça met du temps. Ça met du temps, de la confiance, du respect, de la discussion. Il y a des conditions pour atteindre cet élément-là. Alors, vous trouverez plein de démarches proposées. Ceci, c'en est une. Et j'ai imaginé que, comme les diapos seraient à votre disposition, vous pourriez les utiliser. Mais voilà un cadre qui est possible, qui est celui des collègues Préjean Bernard et Kozanitis, que j'ai un peu adapté avec des changements pour moi que j'ai amené, en partant du contexte, hein, vous n'êtes pas surpris, je vous en parle, élaborer cette vision commune qui est pour moi importante, cerner la profession et puis détailler les tâches liées à cette profession que je peux imaginer pour entrer dans du concret, formuler des compétences ou des macro-compétences, dépendamment de comment elles sont pensées dans votre programme. Mais pour moi, il y a une étape que j'ai ajoutée fort importante aussi, qui est le design pédagogique. C'est ce cadre sur lequel je me base pour construire littéralement ma formation. Pas juste mes compétences, mais arriver à les décliner. Parce que ce que font plusieurs établissements, c'est qu'ils mettent des compétences et puis on n'a aucun changement pédagogique. On fait comme avant, mais maintenant on l'appelle compétence. Mais ça ne fait pas de sens. On a perdu le fondement même de ce qu'est être une approche par compétence. On est passé au travers des valeurs, de ce que ça implique. Si on ne les maintient pas, ben en vrai, on ne fait pas de l'approche par compétence. On fait du maquillage. On va mettre des compétences et puis après, on va garder la même chose. Un jour, il y a un collègue, et ça va être filmé, dites-vous, qui au ministère m'a dit, c'était pas en enseignement supérieur, soyons rassurés, il m'a dit, tu sais, c'est pas compliqué les programmes au primaire, là. Avant, c'était objectif, maintenant, on a mis compétences. Là, on réfléchit à un troisième mot, mais ce qui est important, c'est que tu vois, si on le change, faut pas commencer à changer tous les déterminants, parce que c'était compliqué avec objectif et compétences. On passait du L apostrophe à un LA. Là, c'est ennuyeux parce que tu ne peux pas faire remplacer tout. Et là, je me suis dit, c'est une joke. Il m'a dit, mais non, tu ne penses pas qu'à chaque fois, on réécrit tout? Et je me suis dit que j'étais très naïve. outre-pétique. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour certains, il semble que l'idée, c'est juste qu'on puisse changer le mot rapidement. Or, c'est pas du tout ça le fondement même de la démarche. Si c'est faire ça, fais-le pas. Tu uses du papier pour rien, parce qu'en plus on les imprime pour les écoles. Fais pas ça, demande-leur de barrer au stylo. Ils sont habitués aux primaires, ils barrent beaucoup avec des stylos rouges. Non, c'est méchant, j'adore mes collègues du primaire. Alors, je vous montre que pour moi, c'est quand même une démarche qui n'est pas linéaire. Bien évidemment, ici, on voit un cycle de construction, parce qu'il y a des étapes à suivre, mais elles sont en boucle, c'est itératif. On n'est pas « ok, ça c'est fait ». Vous savez, moi, dans mon programme, je vais vous montrer les compétences qu'on a aujourd'hui. Elles n'étaient pas comme ça au début. D'ailleurs, au début, on en avait 6. Aujourd'hui, on en a 3. Il y a des gens qui ont une tendance à l'expansion. Nous, on a une tendance à la diminution. Mais on est vraiment dans une logique de construction qui se maintient dans le temps. Comme Philippe l'a dit, à un temps T, voilà ce qu'on a produit. Mais on est bien évident qu'on va aussi s'en aller vers ailleurs et que ça va continuer à mûrir, tout comme la science et le savoir évoluent. On base bien le travail qui est fait aussi sur les résultats de la recherche à l'heure actuelle. Ça serait complètement hallucinant de construire un programme en biologie sans se baser sur ce qui se passe en recherche aujourd'hui. Eh bien, c'est tout autant hallucinant de construire un programme de formation basé sur la pédagogie sans regarder ce qui se fait aujourd'hui. Bien évidemment, à condition que vous la considériez comme une science. Certains m'ayant déjà dit que la pédagogie, ce n'était pas vraiment une science, mais un art ou quelque chose que tu as en naissant. Alors, tu vois, tu peux, je ne sais pas si tu pourras télécharger avec ton imprimante 3D ta version plus pédago, mais c'est sûr que quand tu pars comme ça, toi et moi, on va avoir du mal à dialoguer. Moi, je suis convaincue qu'il existe aujourd'hui des éléments de recherche qui nous amènent à prendre des positions plus intéressantes. Alors, évidemment, une fois qu'on est allé là, ben, c'est bien beau, c'est belle parole, mais comment je passe aux actes? Vous savez, c'est un peu comme les plans IKEA. Ça a l'air toujours simple sur la boîte, et puis quand tu le défais, alors vous voyez ici mon plan de dinosaure qui finit par bouffer l'humain. Donc, peut-être que parfois... ça ne va pas toujours comme on veut. Et en vrai, ça ne va jamais comme vous voulez. Entre ce que vous avez imaginé et ce que ça va donner, il y aura forcément un gap. Et il faut l'accepter dès le départ. Il faut comprendre pourquoi et comprendre comment on y est allé dans ce gap. Alors, donc, après avoir bien vu ça, on est allé à l'expérimentation. Alors, vous vous souvenez de mon cours? Eh bien, aujourd'hui, d'abord, de mon cours est né 2 microprogrammes. Ils ne sont pas nés en un coup. Il y a eu le premier d'abord, un microprogramme en pédagogie de l'enseignement supérieur, 135 heures présence étudiante, 3 cours, une belle progression. On a eu tellement de demandes à l'issue des 3 cours qu'on a créé un deuxième microprogramme avancé. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a toujours un cours obligatoire qui n'est plus enseigné en contexte universitaire, mais qui s'appelle aujourd'hui « Enseigner dans le supérieur ». Qui est une évolution d'enseignant en contexte universitaire, mais qui s'est, alourdi de certaines options possibles. Les étudiants peuvent choisir d'aller vers les méthodes pédagogiques actives, l'éthique, les réseaux sociaux, la professionnalisation des étudiants, l'innovation. Donc ils construisent, mes enseignants-chercheurs, un parcours à la carte qui leur convient, avec une porte d'entrée obligatoire, dont tout le monde, tous les enseignants en connaissent le contenu, savent ce qui s'est fait, et puis ils construisent le parcours. Vous êtes intéressé par l'évaluation? Il y a un cours sur l'évaluation. Philippe, c'est les réseaux sociaux qui l'intéressent à mettre dans son cours? Eh bien, il choisit les réseaux sociaux. Madame sait travailler sur l'innovation? C'est le parcours qu'elle choisit. Et l'enseignant-chercheur va construire son propre parcours en fonction de ses besoins, besoins qui auront été travaillés, identifiés à partir du premier cours de porte d'entrée. Et puis, on est même allé plus loin. On s'est dit, tant qu'à aller dans notre... enfoncement en pédagogie de l'enseignement supérieur, on est allé vers un diplôme aussi, qui est un diplôme supérieur spécialisé de troisième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur, 450 heures. Vous comprendrez qu'on reconnaît bien évidemment le parcours fait antérieurement pour continuer dans la deuxième partie. Mais la petite histoire vraie, c'est que le diplôme existait en vrai avant. Le problème, c'est qu'on avait énormément d'abandon. Les enseignants-chercheurs, ils faisaient toute la partie collective, les cours, et puis quand il s'agissait d'entrer dans leur propre projet d'innovation, puisque sa spécificité, c'est de mettre en place un projet d'innovation dans leur contexte, eh bien, ils abandonnaient. Ils disaient « Ouais, mais là, c'est compliqué, je suis tout seul, ça ne me tente pas. » Donc, on a entendu les raisons d'abandon et on a créé un passage entre le cours unique et ce gros diplôme de 450 heures qui étaient ces micro-programmes, qui aident énormément aujourd'hui les gens à entrer dans cette dynamique progressive et à non pas arriver avec la masse, et même à diversifier à l'intérieur de diplômes un parcours plus collectif et un parcours plus individuel. certains n'ayant pas les mêmes besoins d'entrer en formation. Certains arrivant avec un projet d'innovation très clair, d'autres devant encore s'y adapter. Et ça a été vraiment un chemin que de penser cette progression dans le développement de compétences de nos enseignants. Je vais m'ancrer sur le micro-programme à vous présenter aujourd'hui, puisqu'il fallait bien entrer par une porte d'entrée d'un programme, c'est donc le premier que j'ai choisi. Ce micro-programme, vous voyez, il se donne en format hybride, c'est-à-dire avec des temps synchrones et asynchrones, mais complètement à distance. Moi, je ne vois jamais de gens dans la même pièce que moi. Je vois des enseignants-chercheurs derrière un écran. Alors, vous imaginez que j'ai un très gros écran, donc je les vois très bien en réalité, même s'ils pensent que parfois c'est loin, je les vois extrêmement bien. Et on vit des temps communs où on réinvente l'intérêt du présentiel dans des temps à distance. Je pourrais vous parler pendant 2 heures de cette organisation parce que c'est un design pédagogique très spécifique, mais ça a été une des spécificités, née aussi des besoins de formation. Les enseignants-chercheurs, ils disaient, c'est bien, les doctorants, ils peuvent prendre 3 heures, comme ça, ils viennent suivre un cours, ils sont contents. Mais nous, on a une vie dans la vraie vie. Les doctorants aussi, hein, mais ça paraît toujours différent quand c'est les autres. Tu sais, quand c'est toi, c'est quand même un peu pire. Donc, on a entendu le besoin, on s'est adapté. Quand je vous dis qu'on a des temps synchrones, c'est de 19h à 22h. Vous comprenez bien que quand l'enseignant, comme moi, est en France, j'enseigne de 1h à 4h du matin. Mais c'est ce qui va avec le choix qu'on a fait et qu'on assume collectivement. Donc, ce n'est pas toujours non plus des choix qui nous arrangent bien. Il y a des postulats forts qu'on a définis, nos valeurs dans cette approche par compétences, le paradigme de l'apprentissage, et je pourrais vous en parler pendant longtemps, l'apprentissage actif, donc avec une diversité de méthodes, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, et la démarche que Philippe a présentée rapidement du SOTL, le Scholarship of Teaching and Learning. Je vous l'illustre tout simplement, mais l'idée n'est pas d'entrer, mais c'est pour vous montrer qu'on est bien dans un cycle où on emmène les participants. Et pour nous, un point important, une logique d'approche programme. Nous, on est allé jusqu'à dire, bah, tant qu'à entrer dans l'approche par compétences, on va aller en logique programme. Mais je recible aujourd'hui, considérant l'intérêt de la journée, la demande qui m'a été faite autour des compétences. Alors, dans cette expérimentation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des cibles de formation. Souvenez-vous qu'on venait de des objectifs officiels de l'annuaire. Ça a été un chemin pour dire que moi, je ne voulais pas objectif. J'ai tapé longtemps sur le clou de mon administration. Alors, officiellement, dans l'annuaire, que personne ne consulte, heureusement, c'est écrit objectif. Mais dans tout le site Internet, c'est écrit cible. Alors, vous voyez bien que les choses, elles se font. C'est l'un des avantages du numérique. On peut changer des choses de manière un peu plus discrète. Et les cibles sont les micro-programmes de troisième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur visent à développer des connaissances à l'égard de l'apprentissage et de l'enseignement. Ça, c'était un point important parce que plusieurs collègues voulaient que ce soit clairement mentionné, les connaissances. Alors, on est allé quand même une coche plus loin en disant il vise en réalité à sensibiliser à une culture organisationnelle, et vous rencontrez là les éléments de contexte dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la pédagogie universitaire, et à développer les compétences suivantes, et regardez le progrès que nous avons fait, analyser de façon réflexive et critique des pratiques de formation en matière d'apprentissage et d'évaluation par l'adoption d'une position de praticienne chercheuse ou de praticien chercheur. Ça, pour nous, c'est un élément important parce que c'est le choix de la démarche SOTL qui nous a amené aussi à adopter cette posture-là. Planifier des situations d'apprentissage et d'évaluation, des éléments qu'on a entendus tout à l'heure dans le référentiel, et concevoir des activités et des ressources pour l'apprentissage et l'évaluation. On est beaucoup plus modeste qu'à nos 6 premières compétences. Pourquoi ? Parce que l'expérience, quand on est allé sur le terrain et qu'on a révisé nos compétences, on s'est dit, ok, toi, Anne, qu'est-ce que tu fais vraiment dans ton cours ? On a fait des cartes conceptuelles sur nos évaluations, sur notre démarche. Et puis, on a commencé à se dire, ok, qui travaille cette compétence-là ? Moi, un petit peu, là, tu sais, dans telle activité. Ouais. Ah, ben, personne d'autre. Comment on peut justifier que dans un cours, dans un programme avec des cours à options, il y a une compétence qui n'est jamais travaillée, mais on dit, oui, voilà votre certification, vous avez travaillé 6 compétences. Ça nous semblait complètement hallucinant. Alors, on est passé de 6 à 4. On en a sucré 2. On a bien discuté. Hein. Et puis après, on s'est dit, ouais, on a refait des tests. Finalement, celle-là, on s'est chicoté. On s'est dit, OK, on va aller de 6 à 3. Et aujourd'hui, elles tiennent la route. Pourquoi ? Parce que tous les cours qu'on propose touchent à des éléments de ces 3 compétences. Et évidemment, on n'est pas dans une logique un cours, une compétence. Nous, on a un micro-programme, je vous le rappelle, en trois cours. Si parmi les trois cours choisis, il y en a deux qui ne touchent pas mes compétences, j'étais à côté de la plaque. Donc c'était logique de réviser aussi ce qu'on proposait. Ça faisait beaucoup plus de sens. On était bien dans un alignement beaucoup plus important que ce qu'on avait présenté initialement. Autre élément, c'est qu'on est entré, je vous l'ai dit, pour moi c'était important, dans le design pédagogique. C'est bien d'avoir fait ça, c'est super, c'est notre publicité, on positionne notre programme, voilà ce qu'on va faire. Mais concrètement, là, si on entre et qu'on gratte un peu, qu'est-ce qu'on trouve en arrière? Alors ce qu'on trouve, c'est ce que Philippe vous a expliqué tout à l'heure, un alignement techno-pédagogique très fort, alignement au niveau du programme. Non seulement chaque cours doit démontrer son alignement, mais on a choisi d'avoir un alignement programme. Pour nous, ça faisait sens. On doit avoir une cohérence entre les apprentissages visés ou les cibles de formation, les stratégies d'enseignement et d'apprentissage proposées, donc les activités pédagogiques, les outils mobilisés et les stratégies d'évaluation. Ça a été des vraies discussions parce que ce n'est pas nécessairement facile. Alors, on a travaillé sur la planification. Qu'est-ce que ça veut dire planifier quand on est dans cette posture-là? Sur nos interventions. Et je vous rappelle que je ne suis plus avec mes étudiants, donc je ne peux pas dire « Ah, finalement, je viens de trouver un article intéressant, je vais vous le distribuer en classe. » Ça ne marche pas. Mes gosses, je vais les rencontrer à 19h. Comment je fais? Est-ce que je leur transmets les documents? Mais est-ce qu'ils vont avoir le temps de le lire? Est-ce que finalement, je fais une lecture en classe? Comment je propose mon activité? Mon intervention, elle se planifie autrement. Puis toutes mes séances asynchrones, quand ils travaillent tout seuls, comment j'organise un calendrier pour que ça fasse sens? On a fait différents essais, hein. Tout ouvrir, pratiquer les feuillages avec les activités, les modules ou les volets. On a testé différentes stratégies. Je dirais que là, on a trouvé quelque chose qui fonctionne bien, mais ça ne s'est pas fait en un coup. Et évidemment, évaluer. Parce qu'évaluer en classe, il y a des trucs qu'on faisait qui marchaient très bien. Je vous en donne un bel exemple. On faisait des micro-enseignements. C'est quelque chose qu'on avait mis en place où les enseignants venaient présenter pendant 20 minutes un thème, un objet, quelque chose. Et les autres collègues cochaient, on avait une grille d'appréciation. L'idée, c'était de travailler au niveau de la communication. On le filmait. Autant vous dire que pour certains, c'était quand même un moment de torture, parce que te regarder après en vidéo, il y en a qui se découvraient, pas toujours positivement. Mais c'était intéressant. Sauf qu'en ligne, ça ne marche pas super bien. Alors, mon collègue Denis Bédard, il me dit, mais si, ça peut marcher, tu vois, on peut y arriver. On discute pas mal, et finalement, on décide qu'on va faire un test. Donc, je dis à Denis, parfait, tu vas te filmer, puis moi, je vais regarder le truc, et je vais remplir la grille. Ben oui, mais ça faisait aucun sens, c'était zéro authentique. Quand j'ai reçu la vidéo de Denis, ben je cochais oui, enfin j'entourais parce que c'était des cases à qualifier, bien, très bien. Puis j'ai dit, ben ouais, mais c'est nickel. Il me dit, j'espère, je l'ai recommencé 7 fois. Là, on s'est dit, ça marche pas notre truc. Tu vois, en ligne, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le contexte faisait pas de sens par rapport à notre activité. Tout contexte demande d'être révisé en matière de sens. On peut pas juste prendre ce qui se fait et le transformer. Et ça implique évidemment la question des outils. Philippe vous en a illustré plusieurs pour mettre en avant ce qu'on appelle, comme Bix le faisait dans le temps ou Marcel Lebrun aujourd'hui, l'alignement techno-pédagogique. Être bien dans cette phase de cohérence. Alors une fois qu'on est allé là, on s'est dit aussi qu'il faut entrer dans du design un peu plus fin. Nous, la méthode qu'on a employée, à nouveau, je ne vous la détaillerai pas, mais c'est la méthode MISA qui a été mise en place par nos collègues de la TELUC. Ils sont spécialistes, je dirais, autour de cette question-là. Le laboratoire de Gilbert Paquette travaille depuis plus de 20 ans autour de cette question du design, autour de l'axe de connaissance, l'axe pédagogique, médiatique et de diffusion. C'est le cœur qu'on a choisi. Alors une fois qu'on avait ces éléments-là, on s'est dit, on va créer, nous, ce qu'on a appelé un réseau des événements d'apprentissage qu'on trouve dans la littérature qui ressemble à ça en vrai. C'est un tableau avec à quel volet je me situe, combien de temps ça prend, pour quelle cible. L'important n'est pas le contenu, mais c'est de comprendre qu'on a aligné en se disant, est-ce que tout ça est cohérent? Tiens, quand on propose des ressources, est-ce qu'on ne propose que des livres? Est-ce qu'on propose des articles? Est-ce qu'on propose des vidéos? Donc on a essayé d'avoir une cohérence dans la progression offerte à l'étudiant. L'idée de ce réseau d'apprentissage, c'était de nous offrir une photo, de dire un cours de 45 heures, voilà sa photo. Est-ce que ça tient la route? Ça tient la route, oui. On va le transformer en syllabus, puisque vous savez que nous, on a une obligation de produire un syllabus, donc un document pédagogique, avant tout à l'intention des étudiants. Mais une fois qu'on est allé là, on s'est dit, OK, on a produit ça, maintenant il reste à rentrer dans le concret. Et quand on a discuté de concret, là où on est rentré, c'est la porte de l'évaluation, c'est le petit mot qui est en dessous. Parce qu'en réalité, on s'est dit, nos contenus, on les connaît bien. Mais comment on va évaluer? Qu'est-ce qu'on va proposer? Et comment s'assurer que nos évaluations soient cohérentes avec nos cibles de formation? Cette fameuse cohérence dont a parlé Philippe tantôt, pour nous, c'était notre porte d'entrée. Eh bien, je vous assure que ce n'était pas si facile que ça. Pour des spécialistes en éducation, on a beaucoup discuté de nos objets d'évaluation. Alors, en septembre 2015, on était contents et vous voyez, j'avais la même image que Philippe initialement. C'est vous dire quand même comment on est matchés. J'avais cette même image. On était bien contents. Mais alors, tantôt, quand même, même sans accès à Internet, j'en avais une autre. Celle où on s'est dit, bon, ben, tout roule, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, on s'est dit, si on réfléchissait à la fameuse grille d'évaluation programme, vous m'entendez bien, non pas par cours, par enseignant, mais nous tous dans la même pièce. On sentait bien que l'évaluation, c'était notre bout qui nous chicotait encore. Alors, on a osé, et elle commence à se travailler, même s'il reste un peu de chemin. On est allé en se disant, oups, voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Le contenu n'est pas important. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis nos compétences dans la colonne en rose que vous voyez là-bas, et on a défini des éléments. Parce que vous dire, on a mené un combat. En formation continue, pour nous, ça ne faisait pas de sens de mettre une note. Mettre une note à un enseignant-chercheur pour dire ton développement professionnel, il vaut 13 sur 20, 15 sur 20, 18 sur 20, pour nous, ça faisait aucun sens. L'administration a très longtemps résisté, très, très, très longtemps. Mais un jour, on a eu un groupe de profs de la même discipline qui a dit « Pouvez-vous nous organiser un cours juste pour nous ?» Parce que nous, on est un peu différents. Tous les profs me disent ça. Ils viennent tous de disciplines différentes, ils me disent tous qu'ils sont différents, j'ai bien entendu. C'est quand ils se retrouvent qu'ils sont étonnés de voir que finalement, « Vous avez les mêmes problèmes alors ?» Mais non, chez nous, nos étudiants sont hyper motivés. Voyons, chaton, tout le monde a les mêmes problèmes. C'est juste qu'on ne le regarde pas avec les mêmes yeux. Mais donc, tous ces gens différents ont voulu une formation pour eux. Figurez-vous qu'après, ils ont un peu regretté en disant « C'est plate, on a rencontré les mêmes collègues qu'avant. » Bah oui, ça c'est sûr. On n'en a pas engagé de nouveau, donc tu vas avoir les mêmes. Mais ce qui les a surtout chicotés, ça a été « Mais est-ce qu'ils vont savoir combien je vais avoir à la note, là ? On va voir la moyenne du groupe ?» Ah, ça t'ennuie tout d'un coup. Ben oui, non, mais c'est mon collègue direct, tu vois, s'il sait que j'ai plus ou moins que lui, comment se situe? Ah ben là, l'administration a dit, très bonne idée, votre idée de réussite ou échec, on va prendre ça. Jusque-là, je prêchais dans le désert, mais je t'avoue que les collègues venant se plaindre, ah, tout d'un coup, le nombre de plaintes a augmenté, et donc on est entré dans une logique réussite ou échec. Ce qui fait du sens en formation continue, non obligatoire, et surtout, toute la recherche démontre que quand tu entres dans cette logique, en général, ton seuil de réussite est plus élevé qu'avec une note. Ça n'empêche pas de donner de la rétroaction, ça n'empêche pas de qualifier à partir d'une grille critériée où est-ce que tu en es dans ton évolution de compétences. Mais donc, on fournit aujourd'hui, et c'est notre idée, une grille programme qui dit « en deçà de la compétence », et vous voyez qu'on a décrit à l'intérieur ce qu'on met « être en deçà de la compétence 1, 2, 3 », et puis « être ce qu'on a appelé la compétence, je cherche le mot qu'on a utilisé, attendue, merci, exactement. On a beaucoup discuté sur est-ce que c'était notre attente, est-ce que c'était leur développement, mais on a choisi attendue parce que ce sont nos cibles de formation qu'on veut viser. Donc tout le monde, à la fin de la formation, doit se retrouver dans cette case-là, minimalement, sur chacune des compétences. Et on a des vraies discussions à l'heure actuelle, parce que quand on l'a réfléchi, on était tout contents. En septembre, ça a commencé, et là, on a eu des collègues qui disent « Oui, mais moi, j'ai un étudiant qui, dans mon cours, a un en deçà dans une compétence. C'est échoué ou c'est réussi? Qu'est-ce qu'on coche ?» Et là, on s'est dit « Merdouille, s'ils avaient tous réussi, ça aurait quand même été plus simple. » Franchement, le problème, c'est les étudiants, vous le voyez bien, quel que soit le niveau. Toi, tu réfléchis tes outils, c'est génial, et puis eux, ils foutent en l'air tout ce que tu as construit. Donc, on est encore en discussion. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le seuil? Comment est-ce qu'on peut dire un en deçà? C'est quand même une réussite. Évidemment, quand l'étudiant ne le fait pas, on ne coche même pas en deçà. Ça n'a été pas réalisé, donc tu n'as pas de grille. Mais une fois que c'est fait, ça nous pose des vraies réflexions. Hein. Ça nous amène, comme écrit, équipe, programme à réfléchir. Et puis, tu as le au-delà de la compétence attendue. C'est-à-dire des gens qui ont développé plus que ce qu'on attendait. Ne croyez pas qu'on en a si tant que ça qui vont vers au-delà. On a même des gens qu'on a découvert beaucoup en deçà. Pourquoi? Parce que le seuil qu'on a discuté était très clair. T'es en dessous de ça, pour nous, c'est un échec. Et là, par contre, qu'est-ce qu'on fait avec les borderline? Parce que ce qu'on faisait avant, comme tout bon prof, c'est un biais d'arrangement évaluatif. Chez nous, la réussite, c'est 12. T'as 11,5. Oh, je vais te mettre 12. Allez hop, c'est réglé, on est content. Mais là, on ne peut plus faire ça. Quand c'est vraiment en deçà, c'est vraiment en deçà. Et toute la recherche nous démontre que ça augmente le seuil de réussite. Toute. Et ça favorise évidemment l'accord interjuge entre un, plusieurs profs, ou même l'évaluation par les pairs. Alors cette révolution, on s'est dit, ben on vit ce cycle-là, hein. L'optimisme de cette grille, le doute, finalement c'était peut-être une idée à la con. Tu sais, quand on se réunit tous et quand ça ne marche pas, on a eu une période point critique. Je vous avoue qu'on a eu quelques mois où on s'est dit, on va revenir en arrière, cette grille, ça ne marche pas, on ne va pas la remplir, c'est trop compliqué, on avait plein de beaux espoirs. Alors on a diminué nos envies, mais quand même pour reprendre l'espoir, la confiance, et j'espère que tôt ou tard on arrivera à la satisfaction. On y est arrivé sur le reste de l'approche par compétences, mais c'est un vrai chemin. On vit tous dans nos expériences ce cycle. Je pense qu'il ne faut jamais se décourager, et le vrai enjeu en réalité, vous savez, pour les institutions, il est là. Si vous ne passez pas le point critique et que vous repartez en arrière, c'est mort. Et c'est là le poids du collectif. C'est que le collectif, avec des collègues, on a tous des moments de down. Mais quand le collègue, il bouge et il dit « Ben ouais, allez, go !» On n'est pas tous en même temps dans le point critique. Et ça, ça nous permet d'avancer, puis d'aller vers l'idée qu'on va conclure sur quelque chose de positif, qui n'est pas ce qu'on avait envisagé au départ, et qui méritera d'être revu, mais qui est une première réalisation pensée collectivement. Je vous remercie beaucoup.